On continue donc cette émission ensemble jusqu'à 21h30. Ouais, on prend un petit peu de marge et de liberté, hein, Vincent, ce coup-ci. On se donne le droit, on a des super invités ce soir. Je passe la parole à mon ami Antoine qui reçoit une super invitée.
Et oui, bah merci pour ce passage d'antenne. Bonjour Dina.
Salut, hello.
Merci de venir autour de nous, donc autour de ce plateau. Moi je vais parler, je représente une station de guerre des mines et en ce moment je fais une série qui s'appelle Frontières incandescentes où je pose un peu la question de... nous on a une vision un peu liminale des espaces et au final la musique elle s'arrête pas à tout ça. Mmh. Et donc enfin en 2010 dans le monde arabe marque un peu le début d'un printemps où, un peu spécial où la scène musicale indépendante arabe émerge, une volonté de briser les codes du religieusement correct se dessine, la jeunesse du Moyen-Orient écrit une nouvelle histoire, montre au monde une identité bien marquée, jalonnée par quelques antipodes, dont l'une dont tu fais partie, pointe du doigt la musique post-club intellectuelle qui rallie les musiques traditionnelles aux outils de production actuels tels que la MAO. Donc moi je dirais que c'est une révolution culturelle incandescente qui vient teinter un monde moderne qui est en route. Toi, t'es né en Tunisie
Au Qatar.
Au Qatar?
Ah d'accord. Pardon. Ah bah, je suis tunisienne, pas de souci.
D'accord, et donc tu as décidé de t'en aller pour aller dans quel pays et à quel âge tu as décidé de t'en aller?
D'où? C'est-à-dire que, en fait, j'ai grandi au Qatar aussi, jusqu'à mes 18 ans. Et mes parents, ils sont tunisiens, et donc 18 ans, j'ai eu grand bac. Et j'ai décidé de partir à Tunis pour étudier et puis pour voir mon pays, quoi, pour vivre là-bas. C'était en 2008.
En 2008. Et après, du coup, t'es venu en France, à Toulouse?
Mm-hmm. Ouais. Fin 2015.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré à Toulouse? Pourquoi cette destination?
Une femme, mon ex.
Du coup,
en gros.
Et du coup, t'es parti donc, de Toulouse, là, donc t'es resté jusqu'à, donc là, avant le Covid
jusqu'à juillet dernier, en fait. J'ai passé le Covid, le confinement et tout ça à Toulouse. Du coup, j'ai une autre... on parle plus de musique, on va parler de ma vie privée.
Non, c'est moi.
Non, mais en fait, voilà, je suis mon cœur, quoi, plus ou moins. Donc, du coup, c'est ma femme qui a trouvé un travail à Paris. Et du coup, on a déménagé à Paris.
D'accord.
Maintenant, on habite à Clichy.
Tu regrettes pas Toulouse, Dina?
C'était très difficile, mais je regrette un peu parce que c'est une très belle ville. C'est une ville idéale après Tunis.
Bah, c'est vrai, clairement.
Hein, ouais. Le soleil, hein, déjà.
Le soleil, la montagne, pas très loin.
Oui. Enfin, oui.
La Méditerranée aussi, pas très loin.
Mais trop loin. Par contre, par rapport à Tunis,
ah bah, c'est
la
sûr.
Plage, c'est 2 heures.
Toulouse, la Méditerranée, je crois, 1h30.
Une heure et demie, genre fast, vraiment rapide.
Ah bah, oui.
Vraiment rapide.
C'est go fast. Ouais. T'étais voilà. Petite question peut-être indiscrète, mais t'étais centre Toulouse
Centre Saint-Cyprien.
Ah ok, ouais, très bien.
Et toi, du coup, t'as commencé à faire de la musique, t'étais en Tunisie ou t'étais déjà au Qatar?
Non, en Tunisie. Au Qatar, j'aimais beaucoup écouter de la musique et chanter. et suivre, qu'est-ce que c'est une musique plus ou moins occidentale via Internet et tout ça. Donc j'ai commencé avec l'hip-hop, comme tout le monde, et ensuite, petit à petit, néo-soul, jusqu'au jazz, jusqu'au sampling et tout ça. Et une fois en Tunisie, en fait, c'est l'émergence de tous les genres musicaux qui existent. C'est aussi le contexte au Qatar, les conditions dont je vivais au Qatar étaient très isolantes, tandis qu'à Tunis c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire que à Tunis, j'ai pu rencontrer plein de gens sans problème, échanger aussi avec des jeunes comme moi sans problème. Il y avait des bars, il y avait des manifestations culturelles de partout. Et donc, du coup, voilà. Enfin, j'ai élargi beaucoup, disons, ma palette musicale. Du coup, côté musique, moi j'ai fait architecture d'intérieur et donc du coup j'étais très à l'aise avec l'ordinateur et les logiciels et tout ça. Et en même temps, en fait, première année d'université, bah, je sortais en boîte, disons, avec les étudiantes de ma classe. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé la musique électronique, le fait que ça fait danser et que ça nous rendait fous sur le dance floor. On faisait des pas pareils et tout ça. Donc du coup, à certains moments, en fait, je me suis aperçue que on peut vraiment, avec un dance floor pareil, avec n'importe quelle musique, tant qu'elle est sincère et tant que le DJ il veut communiquer un truc, ça nous fait danser. Et c'est là où j'ai vu que c'était très fort. Et puis j'étais un peu jalouse que ça soit une musique qui vient d'ailleurs.
Où ça d'ailleurs ?
D'ailleurs, de notre région arabe en fait. Et je comprends, ça par contre c'est vraiment très philosophique, historique et tout ça, qui a des liaisons par rapport à la colonisation et l'impérialisme et tout ça c'est très 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 loin et tout ça, enfin très détaillé en tous les cas et complexe. Mais en tous les cas ça m'a rendu un peu curieuse pourquoi on est prêt, hein, c'est-à-dire que on est des jeunes mixtes, on va au dance floor, tout le monde aime tout le monde, l'échange c'est très facile et tout ça. Pourquoi ça résulte pas dans notre art quand ça vient de Tunisie ou d'Égypte? Pourquoi c'est pas au même niveau de Je sais pas si vous m'avez compris en fait. Notre volonté de découvrir, notre volonté de recevoir les nouveautés est trop haute par rapport à ce que la musique arabe propose.
Par rapport à l'offre, voilà. Tu veux dire
la modernité.
Disons, ouais. Mais modernité de qui?
De qui, ouais.
Exactement. Et d'où exactement.
D'où c'est là. D'où tirent-elles ces influences finalement? Qu'est-ce qui érige la modernité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que en fait, le monde moderne, est-ce qu'il tire ses influences de la tradition ou alors est-ce qu'il veut éliminer finalement tout ce qui est traditionnel à la base?
Je ne peux pas... C'est très complexe. C'est incroyablement complexe. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on se pose encore des questions. Dans le sens où les chercheurs, ils sont pas... On n'a pas des chercheurs aussi référenciés, aussi... catégorisés sur Internet ou bien les universités ou quoi, tout ces recherches un peu, ou bien pour commencer à chercher une réponse, quand on va sur Internet ou un truc comme ça, il n'y a que des résultats des chercheurs qui sont à Cambridge, New York et tout ça, et écrit en anglais et peut-être en français, mais pas en arabe. Donc c'est inaccessible à nous en fait de savoir et de chercher et de philosopher et de faire de l'anthropologie et musicologie et tout ça et tout ça. À partir de 1930, en tous les cas.
Est-ce que toi, en ayant quand même vécu donc au Qatar, puis en Tunisie, en venant en France, est-ce que tu as vu une sorte d'aubaine, d'opportunité pour aller découvrir un monde occidental et voir par tes propres yeux, finalement, quelles sont les influences et pourquoi? Et puis, aujourd'hui, moi, de ce que j'entends... répondons d'abord à ça. Mais... Parce que je vois que ça t'influence. Aujourd'hui, oui. Tu es quand même influencé. Il y a... Cette culture, post-club. Ouais.
J'étais forcée, plus ou moins, techniquement parlant, pour faire de la musique arabe ou autre, n'importe quelle autre musique occidentale en tous les cas. On évoque les microtonalités, le groove et tout ça. Enfin, les logiciels, les MAO par exemple, intuitivement, ça t'invite à faire de la musique 4-4, intuitivement, à moins que tu sais comment faire les... Donc du coup, intuitivement, notre musique, la musique arabe en tous les cas, elle se base sur...
En fait, tu parles un peu du format.
Un peu.
Comment non, la façon de jouer, Rtigel, improvisation.
Okay.
D'accord. Donc, du coup, elle se passe sur l'improvisation. Comment je peux improviser devant un logiciel qui me montre des grids, qui me montre des... Je peux pas. Donc, du coup, j'achète des MIDI. Pareil, MIDI, tout, il faut tout programmer. Tandis que la musique arabe, en tous les cas, de la plus classique jusqu'à la plus folklore populaire, elle est basée sur l'improvisation. Enfin, tout ce qu'on connaît là de Fairouz, Om Kalfoum, mais je sais pas quoi, enfin, c'est des chansons qui durent 30 minutes. Ils improvisent. C'est pas vraiment. Je pense pas qu'ils ont tout écrit sur des. C'est improvisé, ce qu'on appelle tarab et tout ça. C'est improvisé pour catcher le public et faire une sorte de dialogue, échange et tout ça et tout ça. Donc du coup, moi, en tous les cas, quand j'ai décidé de m'impliquer dans la musique et dans la création musicale, en tous les cas, pas en DJing, parce que DJing c'est un autre monde. Mais après, disons, un an ou deux, je me suis dit, merde, vraiment, mais pourquoi je fais ça, quoi ? Enfin, c'est très compliqué.
Pourquoi
c'est...
tu fais ça ? Tu veux dire la MAO ?
Non, pourquoi je me suis, comment dire, je me suis aventurée sur cette idée de musique électronique arabe. Et j'ai cru que j'étais seule. Donc du coup, j'ai fait des recherches et tout ça, et il y en avait plein d'autres, mais c'était des lone wolves, c'était, comment dire, ouais. Comment
je sais pas, j'allais dire des loups un peu égarés.
Ouais, c'est, un c'est... peu, ouais.
Des personnes, ok.
Ouais, comme les terroristes, n'importe, ce que tu nous
Petite question, Dina, à travers tout ce que tu es en train de nous dire, par rapport à la proposition musicale que toi, tu as... Et ce formatage, en fait, que tu parles un petit peu de la musique, de la création à travers la MAO et le côté improvisation par rapport à la musique arabe. Il y a un lien pour toi ou pas du tout ? Ou justement, toi, tu t'es inscrit hors formatage de tous ces process de musique électro ?
C'est ce que j'essaye de faire. C'est okay. Ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça, justement, en DJ, ce qui m'intéresse, que quand je joue en DJ, ma musique ou bien la playlist que je prépare, c'est des tentatives d'autres cultures.
Ok.
Qui essaye justement de, pas moderniser, mais au moins de réapproprier la musique ou bien les références musicales folklore de leur pays, de Brésil, de l'Indonésie et tout ça, en musique club. Okay. Ou bien en musique amplifiée. Moi, j'aime bien dire ça, basse, grave. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les démarches, en tous les cas, les processus créatifs des Anglais, qui sont incroyables. À chaque fois, ils ont une manipulation avec l'arrangement et la création et tout ça qui est très acrobatique. Moi. Ils s'en foutent.
Ils sont forts.
Ils sont forts. Ouais, mais c'est une tradition. C'est
ancré chez eux.
Hein. Ouais.
La pop music, tout ça, c'est anglais au départ. Hein. Je veux dire, ils ont tellement, tellement influencé l'Europe, le monde.
Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut m'influencer. De ce côté-là, en fait, le fait comment eux, ils font, ils ont fait. Tout, en tous les cas, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment plus ou moins de la recherche. J'ai pas des solutions, j'ai pas un message précis à véhiculer. En fait, c'est un exercice, c'est un laboratoire et tout le monde est témoin, c'est tout.
Ce sont des expériences sonores.
Ouais, et puis ça s'entend bien quand même dans ton parcours musical, cette recherche. Moi, c'est vrai que je me posais la question de savoir si ça venait depuis le début ou si ça s'est construit au fur et à mesure de ton avancée. Bah, c'est normal, en même temps, tu me diras, tu fais que grandir. Et aujourd'hui, avec tout ce que t'as puisé, on peut vraiment lever comme facteur principal le numérique, qui est un bras de levier tant sur les réseaux pour se faire connaître, la MAO aujourd'hui. Donc toi, est-ce que la musique moderne, ce facteur numérique serait une composante essentielle à la musique qui serait dite moderne ?
Oui, carrément.
Essentielle, ouais.
Pour moi, après peut-être il y a d'autres gens qui utilisent d'autres techniques, mais pour moi, oui.
Chouette, chouette.
Petite question, je prends vite fait le relais. Ouais. Antoine, on te retrouve ce soir sur la carte blanche d'Acid Arabe, ça se passe au Club Sésame. Ouais. Franchement, vous êtes bien entouré, il y a Zenobia, il y a toi, Acid Arabe aussi, ça finira par Parfait, donc un peu plus techno. Mm-hmm. Mais ce qui est proposé justement ce soir au Club Sésame, cet univers, cette ambiance un peu orientale, t'as déjà eu des propositions comme ça sur d'autres festivals où il y avait tout un concept de soirée orientale comme ça? Vous êtes déjà retrouvé à plusieurs artistes?
Oui, pas mal de fois. Oui.
Pas mal de fois. Donc tu connais très bien avec qui tu joues ce soir, Acid Arabe, tu les connais bien?
Oui, Zenobia, je connais bien. Ouais. Enfin, plutôt Acid Arabe, je connais très bien parce que je les ai découverts en Tunisie et c'était le moment où ils ont choisi le nom Acid Arabe en fait.
Okay.
Donc c'est vraiment au début et c'était avant que je vienne en France, puis il m'a aidé avec lettre de recommandation à l'Institut
français. C'est parfait.
Et voilà, j'ai eu mon visa, oui. Donc du coup non on se connaît très bien. Ouais.
Et juste dernière question, comment elle est la scène actuelle des musiques actuelles aujourd'hui en Tunisie et dans le monde arabe?
Ça va. Non, mais en fait, disons que ça n'a pas trop bougé depuis, je dirais, 2013. C'est-à-dire que, en fait, politiquement parlant, juste les 2 ans après la révolution, c'était super. Donc, comme tu viens de dire, l'émergence et tout ça, en fait, c'était pas émergence, mais plutôt confirmation, plutôt levée de rideau, hein, parce qu'on était là, c'est juste qu'il n'y avait pas des institutions, c'était pas public et tout ça et tout ça. Et donc à partir de 2013, en fait, j'ai comme l'impression que ça tourne en rond, c'est tout.
Ok, et juste dernière question, on me dit d'arrêter, mais j'ai envie juste de poser une autre. Souvent on voit avec Mazef, etc., des groupes quand même qui sont formés avec des artistes quand même, Abadir, Zouli, toi.
Ouais.
Et vous êtes, on parle de la scène de Kero. Mmh. Est-ce que c'est une place un peu centrale dans le Moyen-Orient?
En fait, oui, j'ai un peu compris ce que tu veux désigner un peu. Ce qui se passe, c'est que le Caire était toujours musical ou artistique en général, cinéma et théâtre et tout ça. Depuis surtout les années 20 et 30. C'était, disons, le Hollywood de la région, en fait. C'est là où il se passe tout ce qui est avant-gardiste et tout ça. Vu le nombre, hein, et vu leur influence, du coup, qui était très nationaliste pan-arabe, donc ils voulaient toujours être au premier. Donc ils philosophaient, ils analysaient tout et tout ça. Moi, je pense qu'ils ont hérité de ça, les Égyptiens d'aujourd'hui. Donc du coup, quand on voit quelqu'un comme Rami Abadir, Zouli, Free Faz, Hossein Cherebni, enfin ces gens-là et tout ça, ils manquent pas de créativité et ils ont pas peur. Pas comme les Libanais, les Tunisiens, les Marocains. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui fait de la nouvelle musique, c'est pas comme quand il fait une performance, il y aura, si je ramène le même gars, ça sera 50 personnes, tandis qu'au Caire, ça sera 300 personnes.
Okay.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils ont plus confiance, ils ont plus confiance et tout ça, en fait. Donc voilà, j'espère.
Je me posais la question, c'est vrai. Donc merci beaucoup, Dina.
Merci pour l'invitation,
c'est très chouette.
On va juste écouter un petit track pour rester un petit peu dans l'univers, dans ton univers. Ça s'appelle Insani Yeti, si je prononce bien.
Insanity.
Ah, voilà, c'est ça. Merci.
Merci à vous.
Bonne carte blanche.
Merci.